dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours, présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important? Une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat...
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard et Pierre-Olivier Nadeau.
Bon matin, Québec! Bon retour de semaine de relâche. Oh, sais-tu... J'en aurais pris encore des vacances, mais je suis très heureux d'être de retour en compagnie de mes chers co-animateurs du lundi matin. Vous avez entendu la voix de Virginie Simard et de Pierre-Olivier Nadeau. Bonjour les amis.
Bon allô. Matin.
Comment allez-vous?
Toujours aussi fatigué.
Ah ouais, mais toi, ça compte pas.
C'est
une tradition. Toi, Virginie, comment vas-tu?
Fatigué. Mais c'est fou comment... Juste un lundi pour se lever tard, ça a fait du bien.
Ah, ça a fait du bien, maudit, lundi dernier. Non, ça a été une belle semaine de tranquille, relax.
Passé trop vite, évidemment. Mais...
Ah, ça, c'est évident. Qu'avez-vous fait de votre semaine de relâche?
Procrastiner mon étude.
Parce qu'il ne faut pas oublier, pour vous, techniquement, c'est une semaine de lecture.
Ben oui, c'était la seule fois où on a eu des nouvelles de nos profs depuis...
Oui, parce qu'ils étaient...
Ils avaient le droit de nous parler.
Oui.
Ils nous ont pas plus parlé, mais...
Oui. Moi, j'ai été un peu plus productif de mon côté, je dirais.
Bon... Ça veut dire quoi? Un petit peu plus pratique.
C'est rattraper les 8 semaines.
Exactement. Puis rattraper mon manque de sommeil également.
Non, ben là, c'est pas de la productivité. J'ai fait du sommeil, là.
Non, mais...
J'ai
rattrapé
mon sommeil.
J'ai rattrapé mon sommeil.
J'ai fait des travaux également. Là.
Ah, ouais. Non, moi, je plaide coupable. J'ai été le leader en chef de la procrastination au Québec la semaine dernière.
Ben, il faut, hein?
Il faut,
vous
absolument.
Vous travaillez fort. Je vous ai vous voyez.
Mon Dieu Seigneur, j'étais comme pas sûr si c'était sarcastique, si ça sonnait
mais...
avec le vouvoiement.
Non, j'adore vous voyez les gens, mais c'est ça, vous avez travaillé fort.
Merci beaucoup. Vous avez bien dormi, je l'espère, Virginie Simard. J'en ai bien profité. C'est rare un emploi où tu as les avantages d'être à l'école sans les désavantages. Moi, j'avais la semaine de relâche sans toute la marde qui venait avec. Donc, je l'ai pris volontiers. Je me suis reposé. Quand même travaillé, mais pas mal plus relax quand t'as pas besoin d'être en onde et de préparer des missions. Cependant, j'ai un problème avec tout ça. Je vais y revenir dans quelques minutes parce qu'avant toute chose, on commence en actualité avec Pierre-Olivier Nadeau.
Jour de vote dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne. Selon les derniers sondages, le candidat du Parti libéral du Québec, Christopher Benninger, et le candidat de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, sont coude à coude avec 38% chacun des intentions de vote. Rappelons que depuis la création du comté en 1992, la circonscription est d'allégeance libérale. Il s'agirait donc d'un coup dur pour la formation politique et d'un immense gain pour QS, qui serait officiellement considéré comme un parti politique à l'Assemblée nationale. Les 6 000 élèves de la région de Québec seront de retour dans les bancs des autobus jaunes, les chauffeurs des autobus PBR, Paradis et Tremblay, ont trouvé un accord avec leurs employeurs après un mois de grève. Les grévistes ont fait plusieurs gains, entre autres des augmentations salariales pouvant aller de 36 à 67 et une augmentation du nombre d'heures garanties. Une nouvelle qui rendra heureux les parents qui devaient s'occuper du transport de leur tout-petit depuis le 16 février.
Il reste juste une grève à Québec. Ouais. On y arrive. C'est fou, hein? La quantité... Ben,
pour moi, là.
Ouais, c'est ça. Précisons, là, parce que je suis pas mal sûr que celles de transport vont affecter plus de monde, là. Mais on a été dans une espèce de séquence là avec la SCLV, la grève de transport scolaire puis celle des enseignants toutes combinées et qui a été assez assez frappante et il ne reste que celle des enseignants.
Juste celle. Après une pause de près de deux semaines, les audiences de l'enquête publique sur la mort de Nora et Romy Carpentier, tuées par leur père Martha Carpentier en juillet 2020, reprennent. Le coroner Luc Malouin devra faire la lumière sur les causes et les circonstances de l'événement avec environ une cinquantaine de témoins qui seront entendus d'ici le 24 mars.
À la météo, Virginie Simard.
Oui, lundi 13 mars aujourd'hui, hein, maximum de 2 degrés en fin d'après-midi. Avec 60% de probabilité d'averse de neige ou de pluie, ainsi qu'un minimum de 0 le soir et cette nuit. Demain, maximum de 3 degrés avec 40% de possibilité d'averse de neige et un minimum de moins 1 la nuit avec pluie ou neige. Je sais pas, ils disent tout le temps pluie ou neige, ils sont pas capables de...
Est-ce que je suis tout seul à ce stade-ci de l'année, là, en mois de mars, là, je prie pour de la pluie le plus souvent possible. Ouais. Je veux voir cette neige disparaître, mourir, anéanti. Je n'en veux plus dans ma cour.
Donc, conditions. Tendance à la baisse et il fait présentement moins 4 degrés, généralement nuageux.
Je pense que beaucoup de gens qui ont oublié d'avertir les travailleurs de la ville de Québec que la relâche était terminée. Parce que quand tu regardes sur les routes, c'est vert, 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 vert.
Parce que tu as dit, quand c'est route, c'est pas de neige. Je comme, il y a plus de neige.
C'est route, il y a littéralement personne. Honnêtement, là, je pense
même dans l'autobus, il y avait personne.
Je pense qu'il y a plusieurs qui ont décidé de faire relâche encore en ce lundi, ou du moins de travailler de la maison, si c'était possible. Puis quand il s'agit, évidemment, des étudiants qui sont encore en grève, tout ça combiné, ben, c'est tranquille sur nos routes.
C'est le temps d'aller faire vos emplettes l'autre bord ou d'aller n'importe où.
Oui, parce que c'est un classique, les emplettes traditionnelles à lundi 8h.
Ben, vous faites pas ça, vous!
Tu sais que je te taquine, Virginie, je te taquine. Non, je vous parlais de ma frustration avec ma semaine de vacances. Oh. Oui, oui, oui. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je suis en vacances, c'est à ce moment-là que l'actualité décide d'exploser. Tu sais, le moment où j'ai... Parce qu'on ne sera pas de cachette. Là. Si je fais de la radio à parler d'actualité, c'est parce que j'aime ça. Mm-hmm. J'aime parler d'actualité, des gros dossiers, des gros événements dans notre société. Puis ça me picote. Là. Quand il se passe quelque chose, que je lis dans le journal, que je vois dans le bulletin de nouvelles, j'ai hâte au lendemain matin, au lendemain midi, j'ai hâte d'être en onde, j'ai hâte de décortiquer ça avec vous, j'ai hâte d'en parler. Puis maudit, à chaque maudite semaine que je suis en vacances, on dirait que c'est là. C'est là que l'actualité a fait « Hello! » Tu sais, d'habitude, toutes les journées où il faut que tu cherches vraiment fort pour trouver des sujets.
Ouais, hein,
ouais, mais là, t'aurais pas eu besoin de chercher, ça aurait été dans le fun comme show, mais tu pourras pas le faire.
C'est la vie.
Hein, la semaine dernière, Gilles Courteau démissionne. La SAC qui est en train d'exploser de l'intérieur. C'est hallucinant la quantité de choses qui se passaient. Puis moi, je suis pogné chez nous, ou même pire encore, j'étais pogné juste à côté, là, juste ici, dans la salle, en train de lire des courriels puis de rien faire parce que j'avais rien à faire.
Vous êtes présenté au bureau?
Ben oui, j'ai des petites jobines à faire, j'ai ma permanence à certaines journées, j'avais le show du sport le jeudi, tu sais, je me suis présenté au bureau par-là. J'étais pas en vacances techniquement parler.
Il se retenait de venir prendre le micro pour dire les actualités. T'es comme hey!
J'étais juste en vacances d'être en onde. Mais j'étais pas en vacances du reste, c'est juste que être en onde, c'est 90% de mon travail. Ou d'écouter des émissions qui sont en onde, qui étaient pas plus en onde. Peu importe. Mais fait que je vais peut-être toucher rapidement ces sujets-là parce que je pense que ça c'est important d'en parler. Ne serait-ce que parler de Gilles Courteau, ce dossier qui finalement aura été mis à clos avec sa démission. Ce qu'on dit de son côté, c'est que c'était rendu surtout plus pour sa famille et ses proches que pour lui. qu'on peut comprendre, c'est souvent un facteur décisif, que ce soit pour un politicien dans un scandale ou autre, même quand il est convaincu qu'il a raison, à tort ou à raison.
Ouais.
Quand ça commence à avoir un impact sur tes proches, surtout quand t'étais à un an de la retraite, bon, ça devait commencer à devenir pesant pour Gilles Courteau. C'est particulier, puis là, vas-y.
Ben, je sais pas si on avait parlé en ondes, là, mais tu sais, il disait qu'il avait pas lu, lui, ça, tu sais, les allégations
de Stephen Quirk, quoi. Ouais.
Lui, il disait qu'il avait pas lu tout le témoignage. C'était un peu ça, sa défense. Une défense un peu faible.
Ah, c'était très bobo.
Ça, l'image de la LHJMQ. Je vais y arriver.
Oui.
Quand l'image est atteinte, c'est souvent les dirigeants qui doivent partir dans ces temps-là.
Certainement. Puis, comme tu l'as dit, la réputation de la Ligue était atteinte, la réputation du commissaire était atteinte. Je vais mettre des gants blancs pour dire que c'est quand même dommage comme fin. C'est vrai qu'il, pour l'aspect hockey, il a donné beaucoup à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a fait quelque chose de beau avec ce circuit-là. Mais ça n'empêche pas ses travers, surtout des derniers mois, bien évidemment, qu'il ne faudra pas oublier, en espérant qu'on apprenne des leçons du côté de la LHJMQ, de ce qui s'est passé et de comment s'améliorer. Mais c'est un dossier qui, sans dire qu'il est clos, semble se diriger vers sa conclusion et en l'espérant vers une amélioration. C'est sans compter aussi la décision de bannir les bagarres dans la LHJMQ qui, certainement, provient entre autres du travail acharné d'Isabelle Charest à cet égard, mais aussi probablement du désir de la LHJMQ de redorer un peu son image auprès des non-partisans de hockey, parce que c'est particulièrement ceux-ci qui s'opposaient grandement aux bagarres, quoique même des joueurs de hockey comme Dave Morissette et Georges Larac, qui, je vous le garantis, se sont plus fait connaître pour leur gants que pour leurs
leur
habiletés
talent.
avec la rondelle, là. C'est Dave Morissette en particulier, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait dit là-dessus. Il a dit, pour moi, les bagarres dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a pas de problème, parce que plus souvent qu'autrement, quand je le faisais, c'était moi qui décidais. Il dit, quand j'étais dans le junior, c'était mon coach qui me tapait sur l'épaule, qui me disait, va te battre.
Mm-hmm. C'est pas correct.
C'est là la différence. Il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas oublier, que dans la LHJMQ, les bagarres, elles sont de plus en plus rares, mais elles existent encore. Puis il y a des joueurs juniors, mineurs, qui peuvent en être victimes. Il suffit d'une bagarre de trop, une bagarre mal placée qui se termine mal pour que ce soit une de trop.
Oui, ben il y a tellement de gens aussi qui finissent par développer des problèmes au niveau neurologique beaucoup plus tard après avoir joué au hockey.
Exact.
Par conséquence. Donc, puis le cerveau, ça pardonne pas.
C'est la meilleure manière de dire. Surtout quand il s'agit de jeunes qui ne sont pas payés, qui, dans grande majorité, ne feront pas carrière dans le hockey. À un certain moment, faut prioriser. Quand il s'agit de gens qui sont payés des millions, qui le font de façon volontaire et délibérée.
Suivi par le meilleur médecin.
Exactement. À un certain moment, vivre et laisser vivre. Mais quand il s'agit de nos jeunes, c'est tout autre chose. Donc, beaucoup de changements dans le monde de la LHJMQ. Et pour ce qui est du dossier de la SAAC, qui est loin d'être terminé, je l'ai couvert un petit peu quand même. Fait que je dis que j'en ai pas parlé, j'en ai parlé un peu à une autre station de radio que je ne nommerai pas ici, à laquelle je travaille parfois certains week-ends.
Le traître.
Le traître, je sais. Oui, je joue double agent. Mais c'est durant un de ces week-ends qu'on a commencé à en parler. Puis j'avais échangé avec l'attaché de presse de Geneviève Guilbeault durant ce week-end-là par texto. Parce qu'on se demandait beaucoup, OK, mais on va faire quoi pour les policiers?
Mmh,
ouais. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'on leur demande d'arrêter de donner d'étiquettes pour les gens qui n'ont pas de permis, pour les ci, pour ça? Puis on nous a dit, oh non, mais on peut vraiment rien faire. Là. Voyons, vous voulez qu'on fasse quoi? Presque un peu avec arrogance, là, de nous dire, ben, on n'a rien à dire aux policiers, on se fie à leur bon jugement. Finalement, quelques jours plus tard, ah ben là, les tickets pour les permis, on va repousser ça de 90 jours, on va repousser ça. Fait que finalement, on avait juste le pouvoir, c'est juste qu'on cherchait cette espèce de défense politique-là. C'était un brin gênant. Mais c'est parlant de gênant, là, c'est tout ce dossier-là qui l'est. C'est absolument incroyable. Tu sais, je vais répéter un peu les points que vous entendez depuis une semaine, là, c'est sûr, parce que c'est ahurissant. déjà imaginer une compagnie privée fermer ses services pendant presque un mois. Bonne chance pour revenir en business par la suite. Mm-hmm. Mais de le faire et de se planter royalement au retour.
Dans ce dossier-là, je trouve ça quand même assez drôle parce que c'est surtout, Madame Guilbeault qui est en train de prendre un peu le blâme, bref. Puis dans le fond, c'est quand même à cause de la transition numérique. Fait qu'Éric Kerr, il est un peu... Ah, je suis caché, je suis pas là.
Ah, oh, j'aime ça, t'as entendu dire ça, PO. Oui, Éric Kerr, c'était le prochain que je voulais mentionner.
Ah.
Éric Kerr, là, je... On ne le voit pas. On parle beaucoup de cette transition numérique hein, au Québec, mais on l'entend rarement. On n'en parle pas. Puis quand on commence, c'est la première étape là, de cette fameuse transition numérique, là, l'espèce d'authentification numérique gouvernementale qu'on vise du côté de la CAQ, qui, tant qu'à moi, est une bonne idée sur papier. Là. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a besoin de se numériser puis de se rendre au 21e siècle, parce que ça fait un bout qu'on devrait y être. De voir Éric Kerr... dans les journaux, juste se tasser complètement de non, c'est pas moi pantoute, de quoi vous parlez, non, c'est les dirigeants de la SAC le problème. Ouais. Hallucinant, et ça augure très mal pour les transitions dans le système de santé. Là.
Pour un ministère qui a été créé l'année passée.
Qui est comme supposé être le bébé d'Éric Kerr, sans compter Éric Kerr qui a dit je vais démissionner s'il n'y a pas une pelletée de terre pour le troisième lien à mon premier mandat. Là, ça. Et puis il l'a répété à multiples reprises. Il l'était garanti. Je
pense qu'il va démissionner.
Mais non, il démissionnera pas parce que c'est ça, le premier mandat est fini puis il n'a pas démissionné.
Mais tu sais, la SAC, c'était compliqué, même avant. En tout cas, moi, à Montréal, quand je suis allé la dernière fois, il y a genre 3 ans, là, ben, peut-être pas 3 ans, là, c'était long à attendre là-bas. Fait que j'imagine pas à quel point ça devait être long en
ouais,
ce moment.
Ben tu sais, je t'enlève rien à ton expérience, là, mais tu sais, anecdotiquement. Peut-être qu'il y a des mauvaises expériences, mais généralement, la SAC fonctionnait relativement bien. Ne serait-ce que par une des choses qu'on va regarder tout à l'heure, là, les bulletins chiffrés au ministère au niveau de la satisfaction clientèle, là, la SAC pour 2021-2022 était assez haut placée. D'après moi, le bulletin pour 2023 va être pas mal plus bas là, avec les derniers résultats. Sans dire que c'était spectaculaire, il n'y a personne qui est heureux d'aller à la SAC. Ça se passe pas habituellement très mal, mais effectivement, là, t'as des gens qui attendaient des heures à l'extérieur, au froid, à cause de ce système.
On dirait, ça me fait penser à la crise des passeports. On dirait que ça ressemble, on dirait...
Sauf que la crise des passeports n'était pas en elle-même causée par le gouvernement.
Non.
C'est
vraiment,
là la différence.
Il y a eu un boom.
On aurait dû être préparé.
Ouais.
On aurait dû mieux le gérer.
Mais même chose pour la SAC, il aurait dû mieux le gérer. Mais
100%.
Il n'y a pas eu de boom. Là. C'est
mais
juste
c'est eux qui ont créé le problème.
C'est vrai.
Ils ont espéré croire que, après 3 semaines d'arrêt complet, le site web allait partir, puis tout le monde allait changer ses habitudes. Mm-hmm. Ce 3 semaines-là d'accumulation allait tout aller en ligne, personne n'allait venir sur le magasin. Évidemment, c'était pas le cas, donc on n'était pas prêt pour la visite en personne. Deuxièmement, les serveurs n'étaient pas prêts du tout pour l'achalandage sur le site, justement à cause de l'accumulation des dernières semaines, ce qui a fait surchauffer les sites, planter les sites à multiples reprises. Ça, j'ai vu ça par-ci par-là, là, au niveau de... Je sais pas si c'était dans ce dossier-là, mais dans un dossier de transition numérique... On parlait que des recommandations avaient été notamment de climatiser la pièce des serveurs.
Ben oui, normalement oui.
Puis apparemment, on a décidé de pas le faire. Fait qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les serveurs ont surchauffé.
Ben oui.
C'est le genre... On est tellement abrutis au gouvernement quand il s'agit de numérique. C'en est d'un ridicule. Puis on n'écoute même pas les consultants. Ça donne des ridicules.
Ben, Ricard est pas là, qu'est-ce que tu veux?
Eh oui, c'est pas Ricard. Arrête, ouais. C'est la SAC. Non, mais vraiment, c'est un dossier absolument, absolument ridicule qui n'est même pas terminé. On va évidemment continuer de suivre toute cette saga. On vient de changer comme si c'était la décision du siècle, là, par exemple, dans les dernières annonces. Ah ben maintenant, vous allez avoir besoin de juste 2 pièces dentées à la place de 4. T'avais besoin de 4 pièces d'identité officielles, là.
Pas ma carte de puce, là.
Non, pas ta carte de puce, ta carte étudiante.
Attends, mais où ça? comme j'ai jamais dû présenter quatre pièces là.
Permis de conduire, assurance maladie, il y avait
passeport,
revenu de cotisation, passeport.
Mais c'est pas tout le monde. Ah, mais ça prend-tu une photo?
Pas nécessairement. Okay, okay, ouais. Fait que c'est sûrement qu'il y avait des factures qui passaient. Okay, ouais. Mais quand
ma
même.
Ma carte de bibliothèque.
Là, ils annoncent ça comme si c'était, hey, on va vraiment faire des sacrifices pour alléger le système. Là, ça va être correct avec juste permis de conduire puis assurance maladie. Nommez-moi une autre place où permis de conduire et assurance maladie, c'est pas suffisant.
À SAQ, ils me demandent tout le temps quatre pièces d'identité.
Mais oui, ouais, en tout cas, c'était absolument, absolument, absolument ridicule. Mais on avance dans le dossier. Geneviève Guilbeault qui est partie de Suède pour revenir gérer tout ça. Toute une histoire. J'ai pris plus de temps que prévu.
Oui. Mais oui,
Continuons. Ben, regarde, on fera une pause tout à l'heure. C'est pas plus grave que ça. Je veux vous parler de la soirée des Oscars qui a eu lieu hier. Passionné de cinéma que je suis, je ne pouvais pas m'en empêcher. Plusieurs histoires hyper intéressantes. Je pense que la plus grosse, c'est évidemment pour le film Everything, Everywhere, All at Once. Je pense qu'on pourrait décrire ça tout, partout.
N'importe où.
À tout moment.
De quoi de même, ouais.
Quelque chose comme ça, la traduction. Tout, partout, tout à la fois. C'est la traduction française, je l'ai. Bon. Film qui a.
Avez-vous vu le film?
Je l'ai vu, je l'ai adoré.
Il est tellement bon, hein.
Il est absolument.
Il est pas vu.
Excellent.
Mais moi, contrairement au Super Bowl, je connais ça, les Oscars. Je suis une passionnée de films. Jason.
Ah, Jason. Non, vraiment, j'aime pas les galas en général. Je n'écoute pas les galas. Je regarde les résultats.
Les Oscars, c'est plus qu'un gala, c'est une institution. C'est comme.
Ouais, je sais, mais les galas, ça me. Ça reste un gala, veut pas, là. Puis
il y a une récompense de prix, mais. Mais c'est long, là. C'est 3h30, là.
C'est ça.
Moi,
j'ai beau triper film, je n'écoute
pas
ça.
On s'entend-tu qu'il y a des remises de prix qui sont moins excitantes que d'autres aussi?
Ben, c'est ça, là. T'as les quatre dernières que tu veux voir, le meilleur acteur.
C'est ça, puis sont à la fin.
Exactement, meilleur film, tout le tralala. Non, le film des Daniels, qu'on surnomme.
Le film des Daniels.
Oui, c'est le surnom qu'on leur donne, les réalisateurs de Everything Everywhere All at Once.
Ah oui, il y avait deux. Ouais.
Daniel Kwan et Daniel Sheinhardt, qui ont remporté l'Oscar du meilleur film. Michelle Yeoh a remporté l'Oscar de meilleure performance pour une actrice. Jamie Lee Curtis et Kwei Kwan, qui ont gagné les Oscars pour acteurs de soutien. Donc, beaucoup d'Oscars pour ce film absolument délirant, complètement à l'opposé de ce que vous vous attendez d'un film qui gagne meilleur film aux Oscars. C'est quelque chose d'assez particulier dans la science-fiction, film de genre. Jamie Lee Curtis, qui en a d'ailleurs parlé dans son discours en remportant sa statuette d'or, disant qu'elle avait donné sa carrière en entier au film de genre. Elle est bien connue, elle a commencé sa carrière comme Scream Queen, comme on aime donner ce titre affectueusement aux grandes dames du genre d'horreur.
Mm-hmm.
Elle était une experte de ce genre, notamment avec Halloween. Oh. Et on pense à Freaky Friday, au film d'action avec Arnold Schwarzenegger.
Quand je l'ai vu dans ce rôle-là, dans le film Everything, en tout cas on le dira pas, j'étais comme « Damn, c'est pas elle, ça. »
Non, mais elle adore les films de genre, et c'en était un autre, celui de cette fois dans le genre de la science-fiction, qui voit les Oscars essayer de se moderniser, de se réinventer en offrant ce genre de statuette aussi prestigieuse dans un film comme celui-là, qui, il y a 10, 15, 20 ans, n'aurait même pas vu le seuil des nominations, probablement. Là.
Je viens de googler. Il y avait juste un budget de 25 millions. C'est quand même très peu.
C'est pas un film. Puis pourtant, ils font quelque chose de spectaculaire avec ces quelques millions. Là. Quelques millions, on s'entend. Là,
Pas pour un film.
Mais pour un film, c'est spectaculaire ce qu'ils sont capables de faire avec ça. La réalisation, elle est superbe. C'est un film particulier. Un film qui incorpore des mains en hot dog qui gagne 7 Oscars.
Avoue, c'est tout ce qu'on a retenu. Ça.
C'est assez intense et particulier. Et je veux vous faire entendre un extrait particulièrement touchant, selon moi. Une des plus belles histoires reliées à ce film-là. Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once. C'est depuis le début de la saison des prix, des récompenses, là, parce que ça fait plusieurs mois que c'est commencé. du côté d'Everything Everywhere All at Once, on ramasse essentiellement partout, on passe la gratte, là. Et c'est l'histoire de Kay Wei Kwan, qui joue le rôle secondaire dans ce film, l'époux de Michelle Yeoh, qui a remporté justement l'Oscar pour meilleure actrice. Kay Wei Kwan, ceux qui ont été comme moi friands de la trilogie d'Indiana Jones se rappelleront de lui comme le petit garçon dans Indiana Jones 2 qui accompagnait Andy un peu partout. Et il était aussi dans The Goonies. Donc, a joué deux rôles très importants dans deux films majeurs alors qu'il était enfant. On ne l'a pas revu par la suite. Il s'est essentiellement disparu de la scène hollywoodienne. Il jouait des rôles d'assistant directeur, directeur des cascades, petites affaires par-ci, par-là, mais avait pas mal disparu. Et il s'est retrouvé dans Everything Everywhere All at Once, et à chaque discours qu'il a donné, parce qu'il a gagné plusieurs prix comme ça, des Golden Globes, il en a gagné plusieurs des prix, il parle notamment de comment sa carrière, il pensait qu'elle était terminée, d'avoir réussi à réaliser son rêve malgré tout, et il a rajouté une couche sur cette histoire absolument spectaculaire. Je vous fais entendre là, juste un petit extrait de son discours. C'est en anglais. Je vais vous retraduire après pour ceux qui ne comprennent pas, mais je vous laisse écouter.
Mom, I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp, and somehow I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream.
Alors, pour résumer, il parle de sa mère. Ça, c'était, honnêtement, j'avais vu beaucoup de ses discours. Je pense pas qu'il en avait déjà parlé. Il parle de sa mère qui l'a amené aux États-Unis à travers un bateau de réfugiés. Il a passé un an dans un camp de réfugiés. Que ce genre d'histoire-là, ça n'existe que dans les films, on dit. Et que lui, il l'a vécu, que c'était le rêve américain.
Le fameux
rêve américain. On ne commentera pas là-dessus, mais vous comprenez l'intention. Donc, vraiment une superbe histoire. Et c'est un film, là, si vous ne l'avez pas encore vu, qui vaut tellement la peine. C'est spectaculaire. Sans aucun doute, là, vous devez vous taper ça. Dans les autres victoires importantes, The Whale, la baleine, qui a permis à Brendan Fraser d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur, et le Québécois Adrien Moreau, qui a reçu l'Oscar des meilleurs maquillages pour avoir justement rendu Brendan Fraser obèse d'une façon à peine perceptible. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc, la cérémonie des Oscars qui a conclu la saison des statuettes du côté d'Hollywood. On va prendre une pause musicale et publicitaire sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, on aborde évidemment cette grève qui frappe les étudiants, les professeurs, le bulletin qui a été rendu public pour plusieurs ministères et services publics. Et peut-être aussi qu'on parle de protection marine avec Virginie Simard.
Avide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvre le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
écoutez L'Allongée avec Félix-Antoine Audet, Pierre-Olivier Nadeau et Virginie Simard.
8h31, presque 32 sur les ondes de Chiz. Toujours bien heureux de vous accompagner. Je veux absolument qu'on aborde le sujet de la grève étudiante, mais avant toute chose, la grève des professeurs. Avant toute chose, tournée de service, commençons.
La fois que les étudiants sont pas en grève.
Ouais, c'est
quand
ça.
Quand même.
Bon, tournée d'actualité avec Pierre-Olivier Nadeau.
Jour de vote dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne. Selon les derniers sondages, le candidat du Parti libéral du Québec, Christopher Benninger, et le candidat de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, sont coude à coude avec 38% chacun des intentions de vote. Rappelons que, depuis la création du comté en 1992, la circonscription est d'allégeance libérale. Il s'agirait d'un coup dur pour la formation politique et d'un immense gain pour QS qui serait officiellement considéré comme un parti politique à l'Assemblée nationale. Les 6000 élèves de la région de Québec seront de retour dans les bancs des autobus jaunes. Les chauffeurs des autobus BR, Paradis et Tremblay ont trouvé un accord avec leur employeur après un mois de grève. Les grévistes ont fait plusieurs gains, entre autres des augmentations salariales pouvant aller de 36 à 67% et une augmentation du nombre d'heures garanties. Une nouvelle qui rendra heureux les parents qui devaient s'occuper du transport de leur tout-petit depuis le 16 février. Après une pause de près de 2 semaines, les audiences de l'enquête publique sur la mort de Nora et Romy Carpentier, tuées par leur père Martin Carpentier tués par leur père Martin Carpentier en 2020 reprennent. Le coroner Luc Malouin devra faire la lumière sur les causes et les circonstances de l'événement avec environ une cinquantaine de témoins qui seront entendus d'ici le 24 mars.
À la météo, Virginie Simard.
Oui, aujourd'hui, maximum de 2 degrés en fin d'après-midi, avec 60% de possibilité d'averse de neige ou de pluie, un minimum de 0 le soir et cette nuit avec la même possibilité de neige ou de pluie. Demain, maximum de 3 degrés avec 40% de probabilité d'averse de neige et un minimum de moins 1 la nuit avec pluie ou neige. Présentement, il fait moins 4 avec un soleil généralement là. Hey, c'est beau ça.
Un soleil généralement.
Ah, ouais.
Généralement, il y a un soleil dans le ciel.
Ah bon,
c'est pas tout le temps.
Non. C'est excellent. J'ai fait ça toute ma vie.
Pour ce qui est de la circulation, il n'y a pas grand-chose à signaler, honnêtement. Là, les gens doivent profiter un lundi plus à la relâche, et on comprend bien ça. Ceux qui ont accès au télétravail doivent s'en prévaloir. Ce matin, les étudiants qui sont victimes, encore une fois, là, de la grève des professeurs, victimes, c'est un mot fort, là, vous comprenez ce que je veux dire, qui ne rentrent probablement pas en cours pour une moitié, du moins, d'entre eux. Et tout ça combiné fait que ça se passe très bien. Il y a une petite exception, là, c'est minime le ralentissement que ça cause, mais il y a une voie sur 3 de fermée sur l'autoroute en 4 à la hauteur de chemin Sainte-Foy en direction nord en raison d'un remorquage. Ça a commencé il y a une trentaine de minutes, donc on continue de surveiller ça, mais pour l'instant, là, les impacts sont très, très, très limités. Un peu en approchant de chemin Sainte-Foy, vous allez ralentir un minimum là, avant de pouvoir passer. C'est rien d'énorme. Alors, donc, je vous parlais de cette fameuse grève du côté des enseignants. J'ai dit victime, le mot est fort parce que je pense que tu pourrais même en témoigner là, de ton côté, Pierre-Olivier. Il y a quand même un appui du côté de la communauté étudiante, oui. Généralement, surtout au niveau des associations.
Oui.
On a voté, du côté, toi, tu travailles au sein de l'administration de l'AICPUL.
Exactement.
Pour les étudiants en communication, vous avez voté un appui.
Un appui, ouais. On a voté un appui avec nos membres. Il y a la S qui est en grève pour... La grève.
Ouais, c'est ça.
Un peu compliqué, mais ils sont pour les professeurs. En généralement, les associations étudiantes sont. Ils soutiennent les profs sans pour autant partir en grève comme l'AS le font.
Voter pour un appui. Oui. Pour le petit peuple comme moi qui comme, se demande c'est quoi. Genre, l'association ont voté pour soutenir les profs.
C'est comme l'opinion publique. Ouais. L'opinion des étudiants est pour les profs et non pour.
Tu tu sais, les associations étudiantes, c'est ça, une c'est espèce de mini reflet. C'est relativement similaire à une association politique, dans le sens que c'est quel genre de choses que tu vas voir aussi à l'Assemblée nationale du Québec, là. Des motions qu'on appelle, qui sont votées, disant, par exemple, un parti, par exemple, le Parti québécois va dire, nous reconnaissons que le Québec doit pouvoir prendre ses décisions lui-même. C'est pas une loi, ça a aucun impact, c'est simplement les gens votent pour qu'on assume ça, puis c'est comme de dire, regardez, voici la position du gouvernement, de l'association étudiante, de tel syndicat, peu importe. Là, c'est une association, juste de dire, regardez, les étudiants sont du bord des professeurs. Ouais. C'est essentiellement ça que ça veut dire. Donc, je dis victime, c'était plus pour la forme que sur le fond. Parce que la grève générale illimitée a été lancée par les enseignants. Il y a eu une semaine de pause où on a négocié de façon intensive. Certains professeurs qui ont peut-être repris contact avec leurs étudiants pour leur dire un ou deux détails. Je sais pas si ça a été votre cas, là. Vous aviez dit que non. Aucun contact de plus avec vos professeurs.
C'est surtout, moi, personnellement, mes directeurs de programme, là, le directeur du baccalauréat et du département, mais c'était sensiblement pour nous dire ce qu'on savait déjà et on reste en grève à partir du 13. Puis, okay.
Mais t'as eu des communications.
Oui, mais comme pas de précision sur rien. Parce qu'ils peuvent pas comme dire, parce qu'ils ont pas le droit de dire comme, hey, vous devez rattraper deux semaines de notes de cours vous-même tout seul.
Et de toute façon, on sait même pas.
Mais c'est
ce
sûr,
qui va
c'est
se
là, en tout cas.
Et c'est là où on est rendu à devoir penser, parce que là, ça va être une deuxième semaine de cours qui va être annulée très probablement, parce qu'on vise le vendredi.
Pas troisième.
Troisième, t'as bien raison. C'était un mandat de deux semaines, puis on commence le deuxième mandat. T'as bien raison, Pierre-Olivier, merci. Donc, troisième semaine de cours qui va être annulée. Et sans dire qu'on est déjà rendu là, on approche d'un monde où il va falloir envisager d'allonger la session universitaire du côté de l'Université Laval. Parce qu'il faut comprendre que plus on repousse ce fameux règlement de la situation, plus la suite va être longue. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on signe cette entente-là, il n'y a pas reprise des cours immédiate.
Non.
Il y a encore une négociation qui doit se poursuivre sur comment la reprise des cours va se faire. Est-ce que ça va être avec une prolongement de la session? Est-ce que ça va être avec changement de la manière d'évaluer? Tout ça doit être décidé entre l'université et les professeurs. Donc ça, c'est une autre négociation qui va s'amorcer quand on finit cette négociation-là, qui risque de se faire plus rapidement, comprenez-moi bien, parce qu'on va vouloir avancer, mais les professeurs voudront pas se faire surcharger. C'est justement le principe même de leur négociation à ce moment-là. Et on va arriver à un autre dossier d'attente. Et là, si on arrive à 5-6 semaines de retard, ben, ça commence à devenir compliqué.
Pour les options qui sont sur la table présentement, là, si on prend pas encore 4 semaines de grève, si, admettons qu'on réussisse à terminer cette grève d'ici le vendredi, pour le moment, on a la notation réussite-échec.
Oui, qu'on a vu beaucoup durant la pandémie.
Pendant la pandémie, qui ferait sûrement son retour. Ensuite de cela, nous avons l'option de les semaines d'examen seraient utilisées pour des semaines de cours.
Ouais.
Et ça, même si l'examen est avant les cours, les derniers cours.
OK.
Fait qu'il pourrait avoir un examen, puis avoir un cours par après.
Mais tout ça fait beaucoup de sens, hein?
Oui, c'est bien intelligent.
C'est les options qui sont sur la table pour le moment.
T'sais, je veux pas sous-estimer les étudiants universitaires, mais j'en étais un il y a pas si longtemps que ça. Pas mal sûr que si j'ai fini mon examen final puis qu'il me reste un cours, cette classe-là va être vide. Là.
Ouais.
Je veux pas sous-estimer.
C'est comme le cours, en tout cas, j'avais eu ça l'année passée. Le dernier cours, il est optionnel, c'est pour votre connaissance personnelle. Il y avait personne dans ce cours-là.
Ben oui, tu sais, comprenez-moi bien, les étudiants veulent apprendre, mais c'est aussi étudiants. C'est aussi jeunes de 24 ans qui ont le goût de retourner chez eux.
En tout cas, je vais parler pour moi, puis je sais que ça va peut-être pas plaire, mais comme si la session... Ben, forcément, la session va finir par être allongée. Je suis clairement pas la seule. Moi, j'ai un employeur qui attend que je rentre temps plein. J'ai aussi des cours d'été que je dois prendre. Et je paye un certain montant pour être... par session qui me coûte très cher, puis là, de le passer chez moi en stress, je t'avoue que je trouve ça dur.
Ah, il y a aucun enjeu à contester là. C'est sûr que c'est pas évident, pour un étudiant. À un certain moment, tu sais, c'est de voir. Puis tu sais, je vous l'ai toujours dit, dans des situations comme ça de négociation, jamais je me prononce vraiment parce qu'on le sait pas qui a raison, qui a tort.
Non, clairement, puis je le dirai toujours, ils font ça pour une raison, là. Ils s'amusent sûrement pas à faire le party, les profs, là.
Mais tu sais, je suis convaincu que dans des situations de négociation, il y a toujours quelqu'un qui est pas raisonnable. Mais je suis convaincu aussi qu'on le saura jamais, puis qu'il y a personne qui peut me faire croire qu'ils savent qui est pas raisonnable. Parce que les deux seules parties à table, c'est ceux qui vont dire que l'autre est pas raisonnable. Mais très certainement que à un certain moment, c'est leur droit aussi là, de passer par là. C'est certainement désagréable, j'en conviens, pour plusieurs étudiants qui vivent des situations similaires à la tienne. Des étudiants qui veulent retourner dans leur famille. Il y en a beaucoup qui ne vivent pas à Québec en temps régulier, qui veulent retourner dans leur région, qui veulent retourner au Saguenay, qui veulent retourner dans l'est du Québec, qui veulent retourner dans le Bas-Saint-Laurent, à Montréal. Ces gens-là, on n'en parle pas.
Moi, c'est ça que je vais faire jeudi.
Mais c'est sûr que c'est clairement un enjeu, c'est clairement désagréable pour ces étudiants-là, malgré tout.
C'est surtout, je pense, moi, ce qui me trigger, je sais pas c'est quoi le terme en français, le plus, c'est que après la pandémie, l'école en ligne, ça m'a tellement dramatisé que de voir qu'on est retourné à ce genre de... C'est pas l'école en ligne, mais on reste chez nous, puis on peut pas vraiment... C'est pas le même contexte, vraiment pas. Non. Puis je dis pas ça parce que je veux faire pitié, là. Mais quoi, vous pouvez m'envoyer des dons, là, mon adresse courriel. Mais c'est pas agréable.
Non, c'est certainement pas une situation agréable. Reste à voir si son dénouement approche ou non. On va prendre une pause musicale. C'est Hubert Lenoir et Octambre sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, là, c'est pour vrai. C'est Virginie Simard qui nous parle de conservation marine.
Reconnais la musique. Tu vois,
Dur le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard et Pierre-Olivier Nadeau.
Il se peut aussi que votre cours de 8h30 du lundi matin habituel, ben, vous l'avez pas parce que votre prof est en grève. Hein? Fait que, bienvenue à cette nouvelle clientèle chisienne qui est avec nous, peut-être bien probablement. Comme à chaque semaine, on s'ennuie la semaine dernière, chronique scientifique avec Virginie Simard, et habituellement, elle passe souvent vers la fin de l'émission, parce que c'est des sujets plus
pas
intemporels.
Non,
super intéressant, ben, c'est évidemment, je te niaise, mais plus intemporel, donc on se tape l'actualité, puis après ça, ben, on relaxe un petit peu plus. Et Pierre-Olivier fait souvent des sujets pas mal plus axés sur l'actualité. Cette semaine, c'est complètement l'opposé. J'ai donc le privilège de commencer avec Virginie. Tu nous parles d'une nouvelle qui a eu lieu dans le domaine de la conservation marine.
Exactement. Nouvelle que vous avez sûrement tellement lue et tellement tout compris parce que vous êtes passionné de ça.
Ben oui.
Donc,
PO puis moi, en fin de semaine dernière, on est allé faire de la conservation marine.
Ben oui, j'imagine. Ça se dit pas vraiment, mais j'imagine. Donc, nous sommes sur la Terre.
Merci.
Ah bon?
Merci Virginie.
Non, mais tu sais, la dite planète bleue hein, est recouverte à 72% d'eau. Hein, vous le savez sûrement que la majorité de la Terre est recouverte d'eau. Et vous avez sûrement déjà entendu aussi la phrase qu'on a plus étudié l'espace que les fonds marins.
Oui, c'est
oui,
vrai.
Mon Dieu,
oui.
Pendant deux secondes, j'ai comme, il sait pas.
Non, oui. Ouais, qu'on connaît, moi, tu sais, les profondeurs de l'océan,
c'est,
on les connaît.
C'est un grand
mystère.
Hein? Et pour les biologistes, il s'est produit quelque chose d'historique le 4 mars dernier. Et je ne pèse pas mes mots. D'historique, il y a eu le premier traité international de protection de la haute mer par les pays de l'ONU. Ben, les pays membres de l'ONU.
Okay.
Ça faisait 20 ans que les pays négociaient pour s'entendre sur une protection. C'est un pas de géant. Et oh non, hein, on va pas parler de problèmes environnementaux, la maudite biologiste. Et c'est exactement ce que je vais faire, parce que on n'en parle pas assez. Donc, les gens en général se foutent pas mal de la haute mer, parce qu'on y vit pas. Hein.
C'est quoi la haute mer, on s'entend?
Je m'en vais là-dedans.
OK, vas-y.
Rares sont les gens qui l'ont vu, la haute mer, communément appelée eau internationale. Les eaux internationales appartiennent à personne et à tout le monde en même temps. C'est une zone qui commence environ à 300 km des côtes. Ça, c'est loin, ça. Fait que c'est vraiment un endroit où c'est complètement sauvage, avec une faune et une flore extraordinaires. C'est aussi un des derniers endroits complètement sauvages de la planète. Donc, on parle pas ici de la petite mer que tu te baignes dedans à Cuba. Là. C'est vraiment loin, loin, loin. C'est vraiment c'est épeurant. Mais Virginie, pourquoi il faut protéger la haute mer?
Ben, premièrement, pourquoi faut-il protéger la haute mer, Virginie?
C'est ça, exactement. Premièrement, ce sont des éponges climatiques. Je m'explique. Les océans absorbent environ le quart des émissions de CO2 relâchées dans l'atmosphère. Elles stockent une grande quantité et sans les océans, ben, les effets du réchauffement climatique seront encore plus importants qu'ils le sont en ce moment. Mais évidemment, dans la vie, rien n'est parfait. Ça cause aussi l'acidification des océans et le réchauffement de ceux-ci parce que l'absorption de CO2 dans l'eau, il faut une réaction avec les molécules d'H2O et ça fait en sorte qu'on va libérer plus, je sais pas si vous connaissez votre pH, là, d'ions H+, puis ça va faire en sorte que ça s'acidifie.
Ben oui, tes ions H+.
Ben oui.
Oui.
Moi, je suis plus moins, là.
Ouais,
non, mais vous connaissez
moins,
l'échelle du pH, là, quand c'est acide. Mais là, on m'a dit d'expliquer quand je parle de science, là.
Oui,
je l'explique.
Vas-y.
Donc, deuxièmement, la surpêche, hein. Vous l'avez déjà entendu, ça. La pêche illégale, le pêcher trop de poissons. Selon l'ONU, environ 90% des populations d'espèces de poissons exploitées commercialement sont épuisées ou en voie d'épuisement. 90%. Ça, j'ai jamais ça aux examens.
Le saumon, le thon, le...
Ouais, fait que tu y penseras la prochaine fois que tu vas te bourrer à face de sushi. J'espère que tu vas te sentir mal.
Devenez végé, le tofu.
Ouais, mais moi, je connais des végés qui sont
pesquitariens.
J'ai dit pessimistes. Ils le sont aussi. Donc,
les attaques sont gratuites, j'adore ça.
Aïe. Non, mais là, hey. Troisièmement, puis c'est probablement le plus gros enjeu dans ça. L'exploitation minière des fonds marins, je sais pas si vous étiez au courant que ça existe, moi je l'ai su, c'est super polluant, hein? Ça perturbe toute une biodiversité marine et surtout, ben justement, je l'ai dit, hein, les fonds marins sont beaucoup moins explorés que l'espace, donc c'est un endroit super inconnu, très peu de connaissances, c'est difficile c'est beaucoup plus difficile d'explorer les fonds marins que les milieux terrestres parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle de l'eau et de la pression. Puis qui sait, hein, il y a peut-être genre le Kraken caché au fond des océans, puis tu veux pas te retrouver face à ça.
Tu veux pas le libérer.
Mais c'est ça, l'exploitation minière, c'est pas très bien encadré. Et ben on sait, hein, quand il y a de l'argent à faire, ben les gens c'est une opinion. Désolé.
Mais surtout que c'est les eaux internationales, donc il y a pas nécessairement de loi d'un pays qui peut régir.
C'est que ça appartient à comme tout le monde, puis tu sais, on le sait là, plus que de gens impliqués, plus c'est compliqué, puis plus ça fait des dramas là, fait que
et voilà.
Finalement, qu'est-ce que ça va faire ce traité là?
Oui.
Présentement, seulement 1% de la haute mer est protégée. Le but, ça va être d'augmenter à 30% d'ici 2030. C'est, ma foi, ambitieux, oui. Mais pas impossible. C'est une excellente nouvelle, mais on va essayer que ça soit pas juste des...
Ça veut dire quoi, concrètement, protéger de la haute mer? C'est quoi?
Donc,
c'est...
Le traité, ça va permettre de protéger et c'est surtout limiter. Ce que ça veut dire, c'est surtout limiter, empêcher les activités humaines dans cette zone.
Okay.
Donc, la surpêche, les exploitations minières. Ça va aussi garantir que les ressources océaniques qui vont être nouvellement découvertes, que ce soit des poissons ou les minéraux, ben ça soit tous les pays qui en bénéficient équitablement entre les parties. Que ce soit pas juste un pays qui va récolter tout l'or dans le fond de l'océan.
Celui que la compagnie minière
c'est
la
ça,
plus puissante.
Exactement, ça va faire en sorte que tout le monde bénéficie également et que tout le monde soit content main dans la main.
Ben, c'est superbe.
Fait que c'est exactement ça. Donc, j'imagine que, comme moi, vous étiez fous comme la merde en lisant ça.
Parce que toi, t'étudies en biologie, si j'en m'abuse.
Exactement, et je fais, puisque vous le précisez, je fais une concentration en écologie marine et d'eau douce. Donc, ça me touche beaucoup.
Bon, fait que tu vois ça, c'est des bonnes nouvelles de
mais
ce que je comprends.
J'ai lu beaucoup d'articles de scientifiques, beaucoup, genre trois. Puis
c'est trois de plus que moi, un peu.
C'est ça. Puis il y a un scientifique de Monsieur Boris, je me rappelle plus, qui disait que c'était la plus belle nouvelle qu'il avait entendue dans sa carrière.
Bon.
Rien de moins là, dans sa carrière. C'est un biologiste marin. Excusez. Donc, mais c'est ça. Hein, ça
très,
fait plaisir de vous éduquer. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, je crois que c'est ça.
Merci, Virginie Simard. On va prendre une pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Laurent San avec Indigo sur nos ondes.
Questions. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh, ben.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard et Pierre-Olivier Nadeau.
Varine bien pile sur les ondes de Chiz 94.3. De retour avec nous pour encore une petite demi-heure. Retour de semaine de relâche qui se fait quand même bien, j'ose le dire. Touchons du bois, la table est en bois, ça tombe bien. Mais c'est sympathique, je pense que c'est ce qu'on voulait aussi. Je pense pas que c'était le temps de s'exploser la tête sur de l'actualité lourde en ce retour de relâche, à voir la circulation. Je pense que tout le monde a le goût d'être encore un peu en vacances un petit peu plus longtemps. Mais que voulez-vous? On est de retour et on est bien présent pour vous du côté de Chiz et de l'Allongée. Et on commence avec une tournée d'actualité en compagnie de Pierre-Olivier Nadeau.
Jour de vote dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne. Selon les derniers sondages, le candidat du Parti libéral du Québec, Christopher Benninger, et le candidat de Québec solidaire, Guillaume Clichy-Rivard, sont coude à coude avec 38% chacun des intentions de vote. Rappelons que depuis la création du comté en 1992, la circonscription est d'allégeance libérale. Il s'agirait d'un coup dur pour la formation politique et d'un immense gain pour QS qui serait officiellement considéré comme un parti politique à l'Assemblée nationale. Les 6000 élèves de la région de Québec seront de retour dans les bancs des autobus jaunes. Les chauffeurs des autobus BR, Paradis et Tremblay ont trouvé un accord avec leurs employeurs après un mois de grève. Les grévistes ont fait plusieurs gains, entre autres des augmentations de salaire pouvant aller de 36 à 67 et une augmentation du nombre d'heures garanties. Une nouvelle qui rendra heureux les parents qui devaient s'occuper du transport de leur tout-petit depuis le 16 février. Après une pause de près de deux semaines, les audiences de l'enquête publique sur la mort de Nora et Romy Carpentier, tuées par leur père Martin Carpentier, en juillet 2020, reprennent. Le coroner Luc Malouin devra faire la lumière sur les causes et les circonstances de l'événement avec environ une cinquantaine de témoins qui seront entendus d'ici le 24 mars.
À la météo, Virginie Simard.
Oui, aujourd'hui, lundi, maximum de 2 degrés en fin d'après-midi. Avec 60 % de possibilité d'averse de neige ou de pluie, minimum de 0 degré le soir et cette nuit. Demain, maximum de 3 degrés avec 40 % de possibilité d'averse de neige et un minimum de moins 1 la nuit avec pluie ou neige. Il fait présentement moins 4 et c'est généralement nuageux.
Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à mentionner. À la circulation, pas mal de vacances encore allongées, de télétravail, d'étudiants qui n'ont pas de cours dû à la grève des professeurs. Donc, rien à signaler. Depuis 8 heures ce matin, c'est vert sur les routes. Profitez-en sans problème. Je profite donc de ce retour de relâche. On peut se permettre d'avoir des sujets un petit peu plus légers et Pierre-Olivier est arrivé avec un sujet plus léger, lui aussi. Super intéressant, par exemple, et je mentirais pas que je suis particulièrement intéressé moi-même. Mais tu veux nous parler d'un hobby qui a explosé en popularité dans les dernières années.
Même dernier mois, dans la dernière année, en fait.
Oui.
Les échecs.
Ah! Les échecs.
J'ai eu la comment on dit ça?
La piqûre
pour les échecs ces derniers mois. Vous me connaissez, ma relation d'amour et de haine avec le sommeil. Il y a une chose dans cette relation-là qui est ma haine, qui est interdite par les d'utilisation par les fédéraux occidentaux. Occidentaux, oui, je vais y arriver. Je parle pas du dark web, je parle de TikTok et ma For You page qui parle juste des échecs en ce moment-là. C'est terrible.
N'a pas la même For You page.
Moi, ça en fait partie aussi.
Mais depuis les derniers mois, je vois juste des échecs. Il y a eu dernièrement...
Moi aussi, mais c'est juste dans mon bulletin. Excusez-la.
Excusez-la.
Je suis passé de vidéos drôles au chat... Ah, aux échecs. Et la première fois que j'ai eu une vidéo des échecs, c'était lors du scandale en septembre 2022. Peut-être que ça te dit quoi?
Oui!
Entre Magnus Carlsen et Virginie Apollard.
Ben oui, je sais c'est qui. Il y a eu le scandale dans le péteux.
Et voilà!
Hey, je suis au courant. Hey, moi, j'ai déjà fait partie d'un club d'échecs, tu sauras, là.
Oh,
ouais. Tabarouette, c'est-tu elle des trois qui est la meilleure joueuse, finalement, puis c'est elle qui en parle pas?
Je vous clenche.
Mais bref, Magnus Carlsen, meilleur joueur du monde actuellement aux échecs, et Hans Niemann, qui avait un sextoy dans son péteux.
Ben ça, c'est les rumeurs.
Attends, mais comment tu l'as su?
Non, il n'y a aucune confirmation, mais c'était les rumeurs.
S'il y a des rumeurs. Bref, ça a été ça a beaucoup tourné dans les médias. Il y a eu plusieurs articles concernant cette possibilité de triche-là. Bref. Ça m'a intrigué. Puis TikTok a bien compris. Ah, il aime ça, lui. On va y en redonner. Il m'en a redonné ces 6 derniers mois. Je ne vois que ça. Et est-ce que je suis le seul là-dedans qui voit juste des échecs, bref, dans son For You page, dans la Pour Toi de TikTok? Eh bien, non. Sachez-le. Je ne suis pas tout seul.
La popularité est en hausse.
La popularité est... On est depuis les 5 dernières années. On a un pic en ce moment dans les 2 derniers mois. Le dernier pic qui a été noté, c'était en fin 2020, lorsque Queen Gambit sur Netflix était sorti. Il y avait la pandémie, on avait beaucoup de temps à faire, à perdre, donc on jouait aux échecs puis on écoutait Queen Gambit. Et actuellement, on a un plus gros pic qu'il y a 2 ans.
Ça me surprend.
C'est quand même surprenant. Puis qu'est-ce qui explique ça? Selon chess.com, c'est le site de base, le plus gros site au monde, application de jeux d'échecs, eux, ils ont 3 grosses théories. La première, je l'ai nommée tout à l'heure, le scandale du sextoy, qui a fait beaucoup parler dans la communauté des échecs.
Et autres, parce que ça devenait une histoire, tu sais, pour travailler dans les médias depuis longtemps, là, ce genre d'histoire-là, peu importe dans quel milieu, ce genre de petite anecdote sympathique finit une émission, qui fait un bel article dans la section comique ou insolite
surtout,
des
c'est
journaux.
Surtout que pour un sport mental comme ça, c'était fou de s'imaginer... Une théorie comme ça, d'une triche excitante,
ah oui,
ou ce que
ça.
Genre, il y a de la compétition.
C'est vraiment particulier.
Et également, il y a eu le post Instagram de Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi avant la Coupe du Monde, ou pendant.
J'ai pas vu.
C'est quand même 46 millions de likes, come on.
Juste 46 millions.
Juste 46 millions, puis c'est quoi le fameux post? C'est lui qui joue aux échecs avec Lionel Messi?
Exactement, bon. C'est juste ça. C'est juste ça. La troisième raison de cette popularité-là, ça serait juste, il y a plusieurs célébrités d'influenceurs qui parlent du jeu en ce moment.
Oui.
Du jeu, comme si c'était un jeu de Switch.
Mais ça devient ça, les échecs. C'est ça qui est surprenant. C'est rendu presque une espèce de catégorie de jeu vidéo. C'est rendu sur Twitch.
Oui.
C'est rendu ultra populaire sur Twitch. Hier, c'était les Streamer Awards.
Ouais.
Donc, pour tous ceux qui streament. Et il y avait une catégorie Chess Streamer.
Oui. T'as-tu le nom brièvement du gagnant?
Je pense que j'ai vu que c'était Gotham Chess.
Moi, j'ai son visage, mais j'ai pas son nom.
Lève quelque chose, là, je l'écoute régulièrement, mais il dit jamais son nom. Ou presque, là. Fait
il est dans mes TikTok, puis il me montre comment gagner, puis je gagne pas, là.
Non, mais c'est bon. Ça, mais c'est un ancien enseignant, un ancien coach d'échecs qui a parti une chaîne YouTube. Hyper divertissant et surtout très instructif. Ce qui fait qu'il a énormément gagné en popularité dans les dernières années.
Et bref, chess.com, on reste en français quand même. Ils ont eux aussi expérimenté le boom qui vit les échecs en ce moment. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec leur serveur. Ils étaient complets. Eux, c'est pas à cause de la climatisation.
Non, c'est ça. C'est juste qu'il y avait pas aucune préparation pour avoir un trafic aussi intense.
Fait, selon Chess, toujours selon chess.com, le trafic sur le site a presque doublé depuis décembre 2022. C'est quand même énorme.
OK, fait que ça, c'est en comptant l'affluence de Queen Gambit, là.
Qui est en 2020.
Il y a déjà eu l'augmentation qui est venue de là. Ceux qui en sont restés, mais on a doublé de là.
En Queen Gambit, il y a eu une petite descente un peu, mais un petit peu plus haute qui est restée. Mais ça a vraiment une grosse chute par après Queen Gambit. Fait qu'on voit une grosse augmentation depuis décembre 2022. Entre le 1er janvier et le 23 janvier, le site a eu un record d'utilisateurs actifs sur les 18 jours. Entre le 1er et le 23 janvier, il y a juste 5 jours qui n'ont pas fait de record. C'est quand même impressionnant. Et leur application a atteint le top 1 dans l'App Store de l'iOS dans plusieurs pays, dont la deuxième place aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y a un engouement autour des échecs. Puis je voulais... Parle un peu des bienfaits des échecs. Évidemment, moi, grand échiquier que je suis...
Nous sommes des grands maîtres.
Je fais partie maintenant de l'élite de la société.
Oui, ben oui, quand tu joues aux échecs. Moi, j'ai installé... j'avais un board, je sais pas comment le dire.
Un plateau.
Oui. Bon, un plateau d'échecs qui traînait chez nous en bois. C'est quand même beau, là.
Mais
joli.
Moi, je trouve tellement ça esthétique, là.
Ah, je l'ai amené comme décoration.
Moi, j'en avais un en verre, là, dans mon ancien appartement. J'aime tellement plus jouer en vrai. C'est
ben oui,
tellement
vraiment.
Beau que sur un ordinateur, là.
J'aime bien. C'est sympathique de pouvoir jouer sur ordinateur parce que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage. Ouais, j'ai pas d'amis à la base, là, mais dans mon entourage, des gens qui jouent aux échecs pour vrai, pas beaucoup. Tu sais, je suis pas un grand joueur, là, je viendrais pas faire semblant, mais j'ai certaines notions de base. Ce qui fait que dès que tu joues contre quelqu'un qui sait pas jouer, ben, c'est pas mal facile, là. C'est assez simple, merci, là. Donc, non, c'est pour ça que malgré tout, l'attrait de l'ordinateur est intéressant parce que.
Tu mets le bot au niveau facile.
Ah, mais
facile.
Non, je joue contre des humains, là.
C'est ça. Des humains.
C'est plus facile de tricher. Pas besoin d'un collègue avec une manette pour le sextoy.
Ben,
vrai.
C'est ça aussi, je peux tricher en ligne facilement.
Hey, bref.
Bref, vas-y.
Les meilleurs. Les quelques. Voyons,
bienfaits.
Les quelques bienfaits, oui. De jouer aux échecs, meilleure créativité, une meilleure pensée critique. Selon plusieurs études, on parle que les gens qui jouent aux échecs sont deux fois plus originaux que les non-échequiers. Donc, je fais partie des artistes de ce monde maintenant.
Oui,
on parle... tu confirmes?
Un artisan profondément en dedans de moi. Là.
On parle également d'une augmentation du QI, ce qui explique mon parcours rendu universitaire. Wow!
Oui, c'est pour ça qu'on est en communication.
Attends,
à
l'université. Mais t'as appris à jouer aux échecs récemment?
Oui.
Bon, ben, ça veut rien dire.
C'est sûr.
Non, mais.
Son Virginie, elle regarde quand même.
Mais
là, moi,
je joue depuis que j'ai 8 ans.
Oh!
Bon.
Bref.
On va aller jouer les trois ensemble, puis on va
les
regarder.
Les trois ensemble, hein?
Ben non, mais chacun notre tour, là. Puis on va vous donner les résultats la semaine prochaine.
Enchaînons. Je vois des jeux de société et aussi associés à une baisse du risque de démence chez les aînés.
Ah, ouais.
Donc, si vous avez un peu
ça,
peur
c'est
de
un
démence.
Autre, c'est un autre boom de popularité parlons, qu'on peut aborder, là. Pas juste les échecs, mais les jeux de société en général. Là.
Oui.
J'étais allé, pas celui de Québec, mais un Randolph à Laval en fin de semaine.
T'étais à Laval en fin de semaine?
Oui, j'étais à Laval
t'as
en fin de semaine. Et rempli. Chaque fois que je vois Randolph à Québec, c'est la même chose.
Les pubs ludiques, là.
C'est vraiment, les jeux de société ont pris un boom, là, dans les dernières années. C'est hallucinant.
C'est tellement le fou.
Si j'avais été un enfant, si moi de 12 ans, et avait 12 ans, maintenant, il serait pas mal plus cool que quand j'avais 12 ans. les jeux vidéo, les jeux de société, tout ce qui était pas mal plus geek, qui est rendu pas mal plus mainstream.
C'est vrai que la culture geek est rendue... Hein?
c'est rendu la norme. La culture geek, c'est quand même surprenant. Les films de super-héros de Star Wars, c'est rendu la norme culturelle.
Moi, là, j'étais loser.
Ah oui, je m'en cache pas. Là. J'étais bel et bien rejet. Là,
Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je disais que moi, je l'étais, mais...
Ben non, mais c'est sûr, on l'était tous. As-tu terminé?
Je continue.
Vas-y, excuse-moi.
Les activités intellectuelles, telles que les échecs, diminuent les chances d'être atteint d'Alzheimer... Par la suite, on a une amélioration de la mémoire. Ça vient un peu avec l'Alzheimer, un petit lien. C'est grâce aux échecs, ça stimule le visuel. Puis tous les stimuli visuels améliorent la mémoire. Bref, ça améliore notre capacité à résoudre des problèmes mathématiques. On voit une augmentation de 21% des notes en mathématiques chez les joueurs aux échecs. Et on parle de meilleures compétences en lecture. Donc... pour les prochaines nuits, je serai moins sur TikTok et maintenant, mon insomnie, on va la blâmer sur les échecs.
J'adore ça. Et au moins, tu auras une raison plus valable.
Je vais ne peut-être pas avoir l'Alzheimer ou je vais m'améliorer intellectuellement. Oui,
t'as bien entraîné ta formation hippocampique.
Et oh mon
l'hippocampe, oui. Oui,
ah, on s'en rappelle, la lecture... Si vous voulez le remettre.
L'hypothalamus.
L'hypothalamus. Bon. Hey, dernière pause sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Ariane Roy, Quand je serai grande. Au retour, on termine ça. C'est le dernier droit dans la longée.
Allongé avec Félix-Antoine Audet, Pierre-Olivier Nadeau et Virginie Simard.
Je peux jouer.
Bon, vous venez d'entendre Virginie Simard dire que ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué.
Genre, j'ai pas dit des grossièretés.
Non, t'as rien dit de mal. Non, vous avez compris qu'on parlait encore d'échecs. Ça passionne les gens, que voulez-vous?
C'est un sport d'intellectuel.
Oh, ben oui, c'est ça. C'est un sport d'intellectuel. J'ai le goût d'aller jouer là tantôt.
Mais pour vrai, moi aussi.
C'est exactement ça que je vais faire quand on a terminé cette émission-là, je vous le garantis. Peu importe. Là, n'est pas le point. Il nous reste encore quelques minutes, là, environ, même pas une dizaine de minutes à cette émission. Et je voulais absolument aborder un autre de ces fameux sujets qui a explosé la semaine dernière. Alors même en fin de semaine, on en reparlait beaucoup du côté du Bloc québécois particulièrement. L'intersectionnalité. L'intersectionnalité qui est devenue le nouveau combat anti-gauche, anti-woke, qui parfois peut être justifié, là, comprenez-moi bien. Là, c'est vrai que, comme tout extrême, il y a des débordements d'un bord et de l'autre. Il y en a du côté de l'idéologie de gauche, par moments, certainement. Mais ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire, particulièrement du côté du Bloc québécois qui dit que l'intersectionnalité, c'est une attaque envers le Québec. Alors que l'intersectionnalité...
C'est quoi?
Ben, apparemment, non. Là. Pour l'expliquer assez rapidement, là. OK, on va expliquer ça simple. On peut dire de manière assez claire et simple, la vie de Virginie, puis tu sais, prendre un individu, ça ne fonctionne pas toujours, là, mais pour le bien de la cause, on y va. Et probablement, généralement, plus difficile que la vie de l'homme blanc moyen, puisqu'elle a à vivre avec le fait qu'elle est une femme. C'est, tu comprends, il y a des enjeux au niveau du salaire, il y a des enjeux au niveau d'égalité à certains endroits. OK. Prenons Pierre-Olivier, qui est homme blanc, qui, par exemple, est mis à côté d'un homme noir. Mm. Bon, là, on peut dire que la personne noire a d'autres enjeux.
Discrimination.
Donc, discrimination, etc. Certaines différences. Là, on prend Virginie et une femme africaine-américaine. Là, je vais changer mon terme. Elle, ce qu'on va dire, à cause de l'intersectionnalité, donc de deux choses... le racisme et la misogynie, ben oui, elle vit plus de discrimination que Virginie. Ça veut pas dire que Virginie n'en vit pas, ça veut simplement dire qu'elle en vit plus. Parce que là, tout me semble assez simple et concis. Je comprends même pas la déformation qui se fait, honnêtement, du côté de l'intersectionnalité, mais ça a été vu comme une espèce de d'attaque profondément woke. Et là, maintenant, c'est même rendu une attaque contre le Québec, selon le Bloc québécois, alors que l'intersectionnalité, on l'utilise régulièrement du côté du Bloc québécois. Ça, c'est la chose qu'on réalise pas. En tant que Québécois, homme blanc, là, par exemple, là, cisgenre, dans mon cas, et je veux pas assumer, je sais pas, dans ton cas, Pierre-Levy, on n'a jamais parlé de ça. Ouais. Mais
c'est pas le moment là.
Je veux pas aller dans ce terrain là. C'est pas ça. Le point étant que en tant qu'homme blanc, comme Québécois, l'intersectionnalité peut être utilisée pour dire, parce qu'on le fait régulièrement, de dire oui, nous sommes une population majoritairement blanche, etc., etc., mais on a vécu de la discrimination en lien avec notre langue. Ça, c'est l'histoire du Québec. Et on a été réduit à une classe économique sous-jacente dans l'histoire du Québec, particulièrement au moment dans les années 1900 où la classe économique était contrôlée par les anglophones majoritairement. On a juste à penser aux émeutes, notamment reliées à Maurice Richard, tout le tralala. J'ai pas besoin de vous donner un autre cours d'histoire du Québec. Vous avez fait ça sur R3. Mais c'est de l'intersectionnalité. Quand on dit le Québec, même si c'est un homme blanc vécu de la discrimination, il y a des différences, c'est de l'intersectionnalité. C'est de dire, ce détail-là se rajoute au reste. Mais cette définition-là, et c'est ce que je déteste dans cette espèce de guerre d'idéologie-là entre la gauche et la droite, et ci et ça, c'est pas une question de qui a raison, c'est juste une question de toujours essayer de dénaturer les propos de l'autre pour en faire une attaque personnelle et rendre la position de l'autre ridicule quand il y a toujours moyen de s'entendre si on s'écoute un moment donné. Ça en fait partie, je trouve ça absolument ridicule. Le Bloc québécois qui dénonce quelque chose qu'il utilise depuis toujours.
C'est bien de la politique, ça.
C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. C'est l'intersectionnalité, c'est pas aucun complot, c'est simplement de dire que si t'as deux facteurs de discrimination, ben t'es plus discriminé que quelqu'un d'autre, c'est tout là. C'est pas, y a rien.
C'est des mathématiques.
Honnêtement, c'est presque ça. C'est hyper standard là. C'est 1 + 1 = 2 là. Ça me semble vraiment pas complexe, Mais apparemment, ça l'est. ça l'est pour certaines personnes. Mais c'est ça. En parlant de... Puis c'est, là, le lien est vraiment boiteux, là, comprenez-moi bien. Là, on parle du Bloc québécois. Ben, je veux peut-être terminer avec le Parti québécois, qui lui aussi, d'ailleurs, dénonçait l'intersectionnalisme là, d'une certaine façon. C'était le congrès du Parti québécois en fin de semaine. Ce qui voulait dire vote de confiance pour le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a eu un record au sein du Parti québécois, un vote de confiance de 98,51% en faveur... Excusez-moi, mon Dieu.
C'est pas le temps.
C'est pas le temps. Absolument énorme comme vote de confiance. Ça, il faut l'accorder. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, évidemment, sous les appuis bien nourris de la foule, est allé prononcer son discours. Et il a parlé de son objectif où il vise et il croit profondément que le Parti québécois pourrait aller chercher le pouvoir en 2026.
On n'a pas un petit jingle, genre des gens qui rient en background, on n'a pas ça, là.
Ben, c'est pas si réaliste que ça, je vais te dire.
Moi, je me rappelle de Pauline Marois.
Ben, elle a pris le pouvoir.
Ben, c'est ça.
Ben, c'est ça.
Pourquoi je les défends? Je m'excuse. Je m'excuse.
Ben, le point étant que son analyse me semble pas fausse. Je pense peut-être qu'elle est en avance de 4 ans, là. Parce qu'il parle de l'épuisement inévitable de la CAQ.
Oui, c'est... Toujours.
C'est sûr, surtout dans un gouvernement tellement dominant qui prend toute la place en raison de résultats là, majeurement, de façon très majoritaire en sa faveur aux dernières élections. Bien évidemment qu'il y a une fatigue qui va finir par s'installer à la longue, que les électeurs vont vouloir du changement. Et quand tu regardes la scène électorale actuelle, le parti qui est mieux placé pour voler des votes à la CAQ, c'est le PQ. Le Parti libéral est rendu l'ombre de soi-même, là, parce que la force du côté de la CAQ, c'est les électeurs francophones un peu plus âgés, là, je dirais 40 ans et plus. C'est la grande force de la coalition Avenir Québec. Le Parti québécois se frappe à un mur, en grande partie chez les plus jeunes, en raison de ses visions au niveau de l'immigration qui, plus souvent qu'autrement, clash un peu avec la population étudiante. J'en croise beaucoup là, à force de travailler ici. J'en ai même parlé avec Paul Saint-Pierre Plamondon quand il est venu en entrevue. On en avait discuté ensemble. J'ai dit, c'est ce que je vois, là. C'est clairement l'enjeu. Il vise à essayer d'approcher cette clientèle-là, mais il voit la difficulté. Alors, la force essentielle de la coalition Avenir Québec sera pas séduite par Québec solidaire, on s'entend. La frange 40 ans et plus n'est que très peu intéressée à Québec solidaire. Elle ne sera pas intéressée... Si elle est intéressée par la CAQ, elle ne sera pas intéressée par le Parti conservateur. C'est pas compliqué, là, qui s'est fait l'ennemi numéro un de la CAQ. Même s'ils ont des idées relativement similaires, généralement, c'est un ou l'autre. Là. Ne serait-ce que sur la division reliée à la pandémie puis
j'ai
à la gestion.
J'ai hâte de voir le Parti conservateur prochaines élections. Là, ça va être particulier. Ils ont plus la pandémie.
Ça va être un autre enjeu, tout à fait. Donc là, tu regardes Parti libéral au niveau des francophones, c'est mort et enterré. T'as le Parti québécois. Puis on l'a vu dans un dernier sondage sur l'indépendance du Québec que c'est un petit peu moins que la moitié des électeurs de la CAQ qui seraient pour un référendum du Québec.
Donc, non, clairement, nationaliste, ben, pas souverainiste.
Le parti est nationaliste, mais les électeurs, il y a près de la moitié qui sont encore souverainistes. Et c'est là où le Parti québécois peut vraiment aller piger. J'ai l'impression que c'est le seul parti qui peut vraiment aller piger de façon majeure dans la cour de la coalition Avenir Québec. Et il est déjà en deuxième position présentement, la égalité avec Québec solidaire à 18% des intentions de vote. Ça ne veut pas dire grand-chose, évidemment, à plusieurs années.
Ça va changer.
Exactement.
Ça a changé encore.
Ça
a
changé. Mais c'est un parti qui a eu tellement de mouvements, ne serait-ce qu'à la position de chef. Depuis Pauline Marois, ça n'arrête pas de changer. Il y a eu le déboire Pierre-Carl Pelado. Il y a eu le déboire Jean-François Lisée. Ça ne fonctionne pas. Trouver un leader. Et là, pour la première fois, on a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui va prendre sa place à long terme. Une stratégie qui est peut-être un petit peu plus efficace là, du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Je pense que PSPP, c'était quand même souvent décrit comme le gagnant des débats des chefs. C'est
100%.
Quelqu'un qui s'exprimait bien, qui avait ses idées.
Il est jeune.
Puis je pense qu'il a bien illustré dans son discours ce qui a charmé les Québécois. C'est-à-dire qu'il a dit, ma stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. C'est de simplement dire ce que j'ai à dire, ce que je veux pour le Québec, puis de le faire. Puis c'est ce que tu sais, que vous l'aimiez ou non, il y a une raison pourquoi tous les analystes de tous les bords, tous les côtés disaient qu'il gagnait les débats. C'est que son authenticité marquait des points. À 100% à chaque débat, le fait qu'il ne cherchait pas la confrontation à tout prix, qu'il ne cherchait qu'à parler, qu'à s'établir de façon posée, c'était de la démocratie faite différente de ce qu'on a vu depuis longtemps. Et c'est allé chercher beaucoup de monde. À voir si ça se rendra jusqu'à un gouvernement en 2026. Je doute, parce que je pense que la CAQ est tellement forte que je la vois pas tomber assez fort dans les 4 prochaines années pour qu'elle perde le gouvernement. C'est peut-être un gouvernement minoritaire, peut-être juste moins majoritaire. Le perdre complètement, je serais vraiment, vraiment surpris. Mais évidemment, là...
L'avenir nous le dira.
C'est ça. Ce n'est que mon opinion, une goutte d'eau dans un océan, hein, qui est maintenant protégé à 30%.
Merci!
Hey, quel callback. Merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de l'Allongé. Ça se termine déjà et c'est le retour officiel de la programmation régulière de Chiz. À 10h, à 11h, ne manquez pas le cabaret du crachoir. À midi, c'est le retour des affamés avec Sarah Manzano. Et elle a d'ailleurs une nouvelle collaboration. Vous voulez pas manquer ça, Pierre-Olivier, Virginie, merci d'avoir été là.
Ben, merci, passez une belle vie.
Merci. Belle vie à vous. Et chers auditeurs, ben vous aussi, je vous dis merci d'avoir